Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une ce matin, les États-Unis qui franchissent la barre des 20 000 morts et deviennent le pays le plus touché par le Covid-19. Les autres titres, Laurence.
Deux professions sont sous tension, les auxiliaires de vie et les pompes funèbres, des métiers qui se sentent mal protégés, contrairement aux promesses du gouvernement. Les travailleurs français vont-ils devoir mettre les bouchées doubles pour permettre un sursaut économique une fois le confinement terminé? C'est l'idée du MEDEF, mais travailler plus n'est pas le sujet, nous expliquera le président de la CFE-CGC. Et pendant ce temps, le Brésil de Bolsonaro poursuit la déforestation de la forêt amazonienne, la plus grande zone de forêt ancienne tropicale de la planète, un trésor de biodiversité pillé et ravagé.
L'invité ce matin, à partir de 8h20, ce sera un médecin, Jean-François Corti. Après avoir parcouru le monde, il soigne désormais en France les personnes atteintes du Covid-19. Son expérience, son témoignage et vos questions, le Standard vient d'ouvrir. C'est au 01 45 24 7000.
France Inter. Direction tout d'abord les États-Unis où, comme dans tous les pays touchés de plein fouet par le Covid-19, le confinement porte ses fruits, lentement certes, mais sûrement. Comme en France, en Italie, moins de personnes sont désormais hospitalisées, mais les décès de ces personnes en détresse respiratoire sont encore très très élevés. À New York, la correspondance de Loïc Loury.
Plus de 1900 morts supplémentaires en à peine 24 heures. Les États-Unis enregistrent un léger mieux, mais restent dans l'œil du cyclone. Dans l'État de New York, épicentre de la propagation du virus, la courbe est bien en train de s'aplatir grâce au confinement. Moins d'entrées quotidiennes à l'hôpital et dans les services de réanimation, mais le bilan, lui, continue de grossir. Près de 800 morts chaque jour en cette fin de semaine. Et la grande métropole de l'Est américain n'est pas la seule à lutter contre le Covid-19. Détroit, Chicago, Minneapolis, entre autres, connaissent les mêmes difficultés. À cela, il faut ajouter les 16 millions d'Américains qui ont perdu leur emploi. Relancer la machine économique sera la plus grande décision de ma vie, reconnaît Donald Trump. Le président américain qui approuvait hier une déclaration de catastrophe majeure pour le Wyoming. Les 50 États américains désormais sont placés sous de tels statuts pour la première fois de l'histoire. New York, Loïc Loury, France Inter.
13 832 morts, c'est le dernier bilan de la pandémie de coronavirus en France. Il y a eu hier 635 décès supplémentaires, 345 dans les hôpitaux, 290 dans les institutions et notamment dans les EHPAD. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, appelle les Français à respecter strictement le confinement. La situation se stabilise, mais la France reste, dit-il, sur un très haut plateau épidémiologique. Ce sont les termes du directeur général de la santé.
Leur rôle est devenu primordial depuis le confinement auprès des personnes âgées, il s'agit des auxiliaires de vie.
Elles étaient déjà les maillons essentiels du maintien des personnes âgées à domicile. Pourtant, depuis 4 semaines, et malgré les promesses de l'État pour mieux doter en masques les services d'aide à la personne, c'est toujours le système D pour se protéger et surtout pour protéger leurs bénéficiaires. Exemple avec Sonia, les auxiliaires de vie à Toulon. Reportage d'Hélène Chevalier.
Sonia intervient 3 fois par jour chez Jeannette. L'octogénaire ne peut plus s'occuper de son mari alité. L'auxiliaire de vie est pour elle une aide quotidienne et une présence indispensable.
Eh ben oui, parce que je vois personne si elles viennent pas me voir. Je sais qu'elles viennent tous les jours, vous comprenez ? Ça me tient beaucoup compagnie.
Car depuis le début de l'épidémie, Jeannette n'ose plus sortir.
Parce qu'à l'âge que j'ai été opérée d'un cancer à un poumon. Alors si je viens attraper ça, j'ai pas trop de chance à m'en sortir. Hein.
Sonia sait à quel point sa présence est importante.
En ce moment, nos aînés, ils ont besoin qu'on sorte à l'extérieur pour eux. Voilà, on les épaule, on les aide, on essaye de les rassurer.
Et surtout de ne pas les contaminer. L'angoisse de Sonia. Toilette, aide à la prise des repas. Elle accomplit des gestes qui l'obligent à être au plus près d'eux. Il y a quelques jours encore, elle ne disposait que de 3 masques par semaine.
Sur les conseils de professionnels de santé, il m'a été suggéré de les passer au four à 70 degrés pendant 20 minutes, ce qui normalement suffisait à tuer les virus. Donc voilà, le soir, avec la popote, je faisais cuire mes petits masques.
Faute de dotation de l'État suffisante, WeHelp, l'entreprise qui l'emploie, dû faire des pieds et des mains et lancer des appels aux dons pour pouvoir enfin l'équiper d'un masque par jour. Mais pour combien de temps, s'inquiète Sonia ?
Hélène Chevalier. Ils sont tous aussi en première ligne face à l'épidémie. Les salariés des pompes funèbres, ils sont débordés par le nombre de décès dû au Covid-19 et notamment dans les régions du Haut-Rhin ou de l'Île-de-France. Toujours considérée comme non prioritaire, cette profession manque d'équipements de protection, exposée au risque de contamination et confrontée à une surcharge de travail. Les employés des pompes funèbres sont aujourd'hui sous tension. C'est le reportage de Yann Gallic.
Depuis un mois, ça n'arrête pas. Nous travaillons quasiment 7 jours sur 7, explique Grégoire Richard.
Il dirige 3 agences de pompes funèbres dans les Hauts-de-France. Son activité a augmenté de 30% à cause des décès liés au coronavirus.
Lorsqu'il y a un décès suite au Covid-19, on doit procéder donc à la mise en bière immédiate. C'est difficile psychologiquement quand on doit inhumer quelqu'un et qu'il y a une seule personne de la famille, voire personne aux obsèques. C'est vrai qu'il y a une certaine forme de déprime parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas notre travail comme on devrait le faire.
À la fatigue physique et psychologique s'ajoute la peur d'être contaminé par le virus, car même s'ils sont en première ligne, les employés des services funéraires manquent d'équipements de protection. Florence Fraisse est la déléguée générale de la Fédération des pompes funèbres.
C'est un peu le troc et la débrouille, c'est-à-dire qu'on a des opérateurs funéraires qui vont aller dans des EHPAD. Les EHPAD n'ont pas de housse pour mettre le défunt en housse et donc elles vont nous échanger la housse contre des masques le temps de faire la mise en bière du défunt. Enfin, on est quand même dans une situation qui n'est pas franchement très confortable pour les uns et les autres.
Malgré les difficultés, les services funéraires continuent à remplir leur mission auprès des familles endeuillées, des familles qui pour la plupart restent compréhensives et reconnaissantes envers les employés des pompes funèbres.
Yann Gallic, ce sondage du Journal du Dimanche réalisé les 8 et 9 avril, la confiance dans le gouvernement face à cette crise sanitaire s'émousse en une semaine, chute de 6 points. 38% des Français font confiance au gouvernement pour combattre l'épidémie et ses conséquences. Un sondage publié à la veille d'une intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État pourrait annoncer demain lundi un prolongement du confinement jusqu'à la mi-mai, au moins. Également et toujours, selon les informations du JDD, renvoyer la réouverture des écoles au mois de septembre et tempérer les ardeurs de ceux qui veulent déjà relancer l'économie. Ainsi, le MEDEF s'impatiente et pense déjà à la question du temps de travail, des congés payés ou des jours fériés. Autrement dit, un travailler plus qui fait grincer des dents à la CFE-CGC. François Omeril, son président.
Le président du MEDEF se trompe de combat. La reprise va être très très difficile, mais ce sur quoi il va falloir accompagner les entreprises, c'est sur des questions de trésorerie, pour pouvoir attendre la reconquête des parts de marché, le redémarrage, ce qui fait la force, la compétitivité de nos entreprises. Elle est en très grande partie déconnectée du coût du travail. Et ce raisonnement, j'allais dire un peu d'arrière-garde, un peu daté, sur le coût du travail, sur le temps de travail, je le trouve assez peu approprié avec ce que vont être les enjeux. Ce qu'on peut quand même assez facilement prévoir, c'est une montée importante du taux de chômage après que nous serons sortis de la période du chômage partiel. Ce qu'il va falloir effectivement, c'est de l'activité économique, du travail, des emplois. Mais la question du temps de travail, c'est un autre sujet. Moi, je pense qu'il faut être extraordinairement prudent et ne pas mélanger les choses.
François Omeril, le président de la CFE-CGC avec Fabien Cazot. Un week-end Pascal inédit, pas de procession, pas de messe, pas de place Saint-Pierre, noir de monde comme à l'ordinaire. Aujourd'hui, à Rome, le pape François donnera sa bénédiction Urbi et Orbi à l'intérieur d'une basilique quasi vide, mais en modo vision. Et à la veille de ce dimanche de Pâques, le pape a appelé les chrétiens à ne pas céder à la peur. Enfin, bon nombre d'écologistes estiment que la surexploitation des ressources naturelle est à l'origine de cette crise sanitaire. Bien davantage que la chauve-souris ou le pangolin, ces animaux ne sont que les réservoirs ou les transmetteurs d'un virus, disent-ils. La pandémie, expliquent les spécialistes, est entre autres la déforestation, la perte d'habitat naturel et la réduction de la biodiversité. Ainsi, dans le Brésil de Bolsonaro, la déforestation a une nouvelle fois explosé. Et par rapport à l'année dernière, elle a doublé dans la forêt amazonienne. Jean-Mathieu Albertini.
Alors qu'une bonne partie du monde est à l'arrêt, les tronçonneuses et les tractopelles tournent à plein régime dans la forêt amazonienne. Depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, la déforestation augmente constamment à cause des voleurs de terre, des trafiquants de bois et autres orpailleurs clandestins. Mais avec le coronavirus, on va droit à la catastrophe, explique Christian Poirier de l'ONG Amazon Watch.
Oui, l'IBAMA, l'organisme chargé de la protection environnementale, a mis en place des mesures de précaution contre le Covid-19 et envoie beaucoup moins d'agents sur le terrain. Du coup, les forces criminelles agissent en totale impunité en ce moment.
En plus de ça, la crise économique causée par le virus va aussi contribuer indirectement à faire augmenter la déforestation.
Ça va engendrer énormément de chômage. On peut donc imaginer que beaucoup plus de personnes vont être obligées d'adopter ce type d'activité criminelle si elles veulent avoir un revenu.
Et le pire est à venir, car en Amazonie, c'est encore la saison des pluies, époque où la déforestation est moins importante. Lorsque la saison sèche va commencer, les incendies risquent d'être particulièrement dévastateurs. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Et le 6-9 continue sur Inter avec Éric Delvaux.
C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps de ce dimanche avec vous, Jean-Michel Golinski, et des températures en baisse sur la façade atlantique.
Ah, tout à fait, avec la sédation progressive en journée d'un ciel pluvieux orageux à partir du sud-ouest et remontant en journée vers la Bretagne. Du nord de la Loire aux régions du Grand Est, le temps va également changer par rapport à ces derniers jours avec un risque d'ondées et même de coups de tonnerre possibles en seconde partie de journée. En revanche, de l'Auvergne-Rhône-Alpes au pourtour méditerranéen maintient d'un temps sec. Il est prévu cet après-midi 19 degrés de Brest à Biarritz contre 23 en moyenne hier après-midi sur la façade atlantique. Il va faire 22 à Toulouse et Marseille, 24 à Lille, Metz et Lyon, 25 sur l'Auvergne et 26 degrés sur l'Alsace et la région parisienne.